Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues, en effet, cette semaine, c'est le feu. Sociologie des pompiers, flammes amoureuses 2.0, images brûlantes et flammes de la révolte. Voilà à peu près le programme de la semaine. Aujourd'hui donc, on brûle les morts, la crémation en question. Il existe deux versions du texte « Construire un feu » de Jack London. La première, écrite en 1902, l'autre en 1908. Elle raconte l'histoire d'un homme qui marche dans le Grand Nord en plein hiver et qui, confronté au froid, doit sa survie à la construction d'un feu. Dans la première, l'homme réussit, il vit, et dans la seconde, l'échec final de la construction de ce feu mène à sa mort. Les deux jeunes chercheuses Anne Guillaume, artiste, et Océane Ragourci, architectes associés à la préfiguration de la Villa Médicis à Clichy-Montfermeil, en Ile-de-France, prennent ces deux versions du texte comme territoire et trame de leur recherche. Elles n'oublient pas que Clichy-sous-Bois et la mort de Ziad Ebouna constituent le foyer des révoltes urbaines qui ont vu en 2005 être brûlées voitures, bibliothèques, etc. Le feu, à la fois éclairage, chaleur d'un lieu et potentielle destruction, la mort et la vie. Leurs recherches s'inscrivent dans le programme d'expérimentation en art et politique de Bruno Latour. Il faudra le suivre. Il est 14h passé de 2 minutes. Vous écoutez France Culture, le feu est double. Bienvenue dans les nouvelles vagues. Et les nouvelles vagues sont autant de départs de feu. Chaque semaine, on demande à quelqu'un de se souvenir des foyers naissants. On demande à quelqu'un d'évoquer des choses importantes pour lui. Cette semaine, c'est l'affichiste, graphiste, artiste Benoît Bonnefrit qui se prête au jeu aujourd'hui. Il évoque les Polaroïdes de Tarkovsky. L'artiste réalise des instantanés de sa maison, de son petit garçon, de sa femme, au moment même où il est obligé de quitter son pays. Ces images sont autant de petits feux brûlants. Benoît Bonnefrit les décrit vers 14h45. Deuxième moment d'une semaine consacrée au feu. Aujourd'hui, on brûle les morts. Si le respect dû à tous les corps humains ne cesse pas avec la mort, alors comment statuer sur les cendres, sur leur circulation, sur leur libre dispersion ? Qu'est-ce qui entre en jeu lorsque la loi ne gère plus seulement les sujets vivants, mais les corps morts ou ce qu'il en reste? Comment les notions d'État, de nation, de territoire sont-elles autant convoquées que celles de dignité et de deuil? Vous réfléchissez à tout ça. Arnaud Esqueret, vous êtes, après un détour historique par la mise en place des premiers crématoriums à la fin du 19e siècle et l'évolution des discours et des pratiques de crémation, vous vous intéressez à des questions plus politiques. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous avez publié Les eaux, les cendres et l'État aux éditions Fayard. Myriam Gervais et Renaud Peters, vous êtes tous responsables, respectivement responsables des maîtres de cérémonie et d'accueil, c'est ça ? Alors,
oui, moi je suis.
Alors bonjour Myriam bonjour. Gervais, parce qu'on s'est écrit des petits mots juste avant le direct et finalement on ne s'est pas assez compris. Donc, Myriam Gervais, bonjour.
Bonjour, je suis la responsable donc, des maîtres de cérémonie de l'accueil au crématorium du Père Lachaise, géré par les services funéraires ville de Paris. Et Renaud.
Bonjour.
Bonjour.
Qui est mon adjoint. Peters. Qui est mon adjoint.
Très bien. Donc on parlera évidemment de ce métier-là, de maître et maîtresse de cérémonie, oui. Et principalement dans cet endroit du crématorium. Alors puisque je parle d'un détour historique, peut-être on peut parler d'ailleurs du crématorium du Père Lachaise. Fin 19e, qu'est-ce qui se passe de ce côté des pratiques de crémation, Arnaud Esqueret ?
Alors la crémation, d'abord, c'est le terme même, c'est un terme qui n'est utilisé qu'à partir de la deuxième moitié du 20e siècle. Et on part de la fin du 19e parce que c'est le moment où en fait on va discuter énormément de savoir si on va autoriser ou pas la crémation ou le fait de brûler les corps. Mais il faudrait, pour être précis, repartir de la Révolution française, parce que c'est à partir de la Révolution française que le débat en fait éclot et reste en suspens pendant plusieurs décennies à travers toute l'Europe. Et sachant pendant que la Révolution française, tout un ensemble de questions sont posées, c'est-à-dire aussi quelles sont les cérémonies, par exemple, possibles, si jamais concernant les funérailles d'une manière générale, et si on autorisait la combustion des corps, car à l'époque on parlait de combustion des corps, on parlait de bûcher.
C'est une crémation qui désigne donc plus spécifiquement le fait de brûler des corps humains et qui est utilisé qu'après.
Il est utilisé plus tard. Et à l'époque même, pendant la Révolution, c'était contre l'Église, en réaction en grande partie à l'Église. Et on y avait comme toile de fond en référence l'Antiquité, c'est-à-dire les Romains, les Grecs, la question des Gaulois aussi, sachant que les pratiques étaient diverses en réalité au moment de l'Antiquité. Donc l'interprétation même de l'Antiquité, de la pratique funéraire pendant l'Antiquité, est un objet de débat à ce moment-là. Et donc toutes ces questions sont posées pendant la Révolution française. Elles sont en quelque sorte suspendues au début du 19e siècle par un décret qui règle les funérailles en 1804. Et elles se réouvrent au moment de la Troisième République, où il y a des débats extrêmement forts. Il faut voir que dans une brève période qui va de 1873 à 1914, on peut recenser environ 70 ouvrages sur cette question, 70 ouvrages spécifiquement sur la question de la crémation, de l'incinération. Donc c'est un débat énorme et dans lequel en fait le pape lui-même va prendre position, puisque l'Église catholique va interdire la crémation en 1886, et en 1887, l'année d'après, il y a la loi sur la liberté des funérailles qui va permettre en fait d'autoriser la crémation en France. Il y a des promoteurs en fait de la crémation. Il y a une société en fait de propagation de la crémation qui se met en place, dans laquelle il y a beaucoup des gens qui ont des professions libérales, des médecins, des avocats, une partie de gens qui sont francs-maçons en fait aussi, et ce sont eux en fait qui ont porté cette réforme.
Alors avec quels arguments, à la fois en 1886 et à la fois dans le camp de ceux qui portent cette réforme, puisqu'on va beaucoup parler des arguments peut-être un peu plus contemporains tout à l'heure, quels sont les arguments qui vont contre ?
Alors contre ou pour ?
Contre en 1886, de la part de l'Église.
Contre la crémation, en fait, un des arguments, c'est évidemment le dogme de la résurrection des corps, qui est un dogme où la manière en fait dont il est formulé est assez complexe, parce que ce n'est pas qu'un corps ne puisse pas ressusciter parce qu'il aurait été démembré ou dispersé ou en cendres, c'est qu'en fait que la croyance en la résurrection des corps est affaiblie. C'est comme ça que c'est, ou qu'on ne pourrait plus y croire, puisque en réalité, il y avait déjà cette pratique qui était les reliques. Et que les reliques, ce sont des corps, en fait, des morceaux de corps, absolument, et ça n'empêche pas la résurrection des corps. Donc c'est à ce moment-là que ça se met en place. Il y a tout un ensemble d'arguments, en fait, qui sont déployés. La question du coût, ça coûterait plus cher. Après, ce type d'argument, c'est inversé, évidemment. Il y a un argument qui est mis en avant par les partisans, c'est la question de l'hygiène. Ça serait plus hygiénique en fait de brûler les corps contre en fait l'inhumation qui en fait était considérée comme étant où les cimetières étant des sources en fait à la fois d'odeurs, de puanteur en fait et de maladies. Et c'est aussi l'époque des guerres, donc il y a la question des charniers et la question de brûler en fait les corps pour éviter les épidémies est une question qui est à ce moment-là soulevée parmi les partisans, en fait.
Alors, à ce moment-là, au début du XXe, ça concerne combien de personnes ?
Ça concerne, en fait, très très peu de personnes, parce que, en fait, si on reprend les chiffres qui sont faits par la société à l'époque des crématistes, ce sont principalement des débris d'hôpitaux qui sont brûlés, en fait. Et il y a très très peu de personnes qui décident, en fait, de faire le choix de la crémation. Et c'est une chose qui est absolument étonnante d'un point de vue sociologique, c'est que ce n'est pas parce qu'une pratique est autorisée juridiquement qu'elle se répand. Et ça, c'est vrai, en fait, pour un certain nombre d'autres pays européens. Et c'est tout à fait stupéfiant en ce qui concerne le cas de la France, puisque, en fait, de 1887 jusqu'au début des années 1980, la crémation, c'est moins de 1% des obsèques. On aurait pu imaginer, en fait, que ça allait continuer comme ça.
Parce que c'était complètement autorisé.
C'était autorisé, il y a même en plus, à partir du milieu des années 70, il y a un décret qui a été pris par Simone Veil en 1876 qui permettait en fait qui ouvrait la libre circulation des cendres, on en reparlera peut-être. Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des problèmes qui sont beaucoup plus généraux, qui sont européens, parce que en fait, dans les autres pays européens, la crémation était aussi interdite au 19e siècle et elle s'est répandue en fait de manière plus ou moins importante selon les pays. Il y a des pays où elle n'a pas cours, comme en Grèce, mais quand on prend le cas de la Suisse, par exemple, du Royaume-Uni, de la Suède, ce sont des cas absolument spectaculaires parce que ce sont des crématos qui ont augmenté de manière extrêmement importante et on a envie de dire, quand on regarde les courbes d'augmentation, c'est des courbes qui sont comme inéluctable en fait, et on se dit que quand on voit la courbe de la France, c'est à l'air d'être le début de la courbe du Royaume-Uni ou de la Suisse, et donc en fait que le taux de crémation augmentera. Il faut voir que
alors simplement pour la Suisse et pour le Royaume-Uni, c'est explosif, c'est-à-dire on arrive à quoi comme chiffre?
Alors au Royaume-Uni, en Suisse, c'est environ 90% des obsèques dans les années 2010. Donc si vous voulez, on est passé d'une société d'inhumation à une société de crémation. Voilà, ça c'est il faut voir en fait à l'échelle du temps, c'est-à-dire que c'est des pratiques anciennes, que ce sont des changements qui ont lieu donc en moins d'un siècle, c'est très rapide pour une pratique extrêmement répandue. Donc c'est un véritable changement anthropologique majeur qu'on ne souligne pas assez ou qu'on ne prend pas assez en compte comme changement anthropologique. C'est vraiment un changement très important du rapport au corps parce que voilà, on est passé d'une société d'inhumation à une société de crémation dans des pays. Voilà, la Suisse est un exemple tout à fait emblématique et intéressant aussi parce qu'il y a tout un tas de pratiques qui peuvent s'y développer et c'est comme une sorte de laboratoire de ce qui va nous arriver. Voilà, je pense qu'en matière de mort, la Suisse est l'avenir de la France.
Et ben.
Il y a des monuments qui sont vraiment tirés du macabre pur, c'est-à-dire que bon, une fois de plus, on retrouve soit le squelette, ou soit la mort dans un linceul, soit le masque tête de mort avec les dents qui accrochent le voile qui est par-dessus, très bien exécuté. Bon, puis le reste, ça balance avec les angelots traditionnels et les bonnes familles, enfin, comme au cimetière de Turin, qui est un des plus beaux, les plus fous de tous. C'est un des plus beaux d'Italie. Enfin, les Italiens sont très forts dans ce genre de domaine. Ils ont des sculpteurs absolument extraordinaires. Et le cimetière de Turin, c'est un des plus étonnants parce qu'il y a des allées entières qui sont des vallées des rois, mais des petites vallées des rois de bourgeois italiens. Et ce sont presque des blocs d'immeubles entiers et ils sont immenses. Et chaque porte du tombeau, bon, sont des compositions qui vont de 4 à 6 personnages. Enfin, c'est absolument étonnant, avec des scènes de vie quotidienne également, des scènes de pleurs, et puis des images très belles de morts emportant des jeunes femmes évanouies dans leurs bras, enfin, des choses très très étonnantes, en plus patinées par le temps, très salies. Mais je ne trouve pas ça toujours très macabre, parce que je trouve que c'est assez esthétique et ce sont des visions très très romantiques de la mort. Ce qui est beaucoup plus macabre, je trouve, pour moi, sont les crématoriums, par exemple. Bon, celui du Père Lachaise, par exemple, c'est absolument étonnant. Bon, ce sont des couloirs également avec les petites cases, là on connaît. Et il y a c'est une espèce de temple, on descend, il y a 2 étages, je crois. C'est aussi le rendez-vous des homosexuels, paraît-il. Mais il y a 2 étages et on descend ensuite sur une salle intérieure avec quelques marches. Il y a une sorte de vasque vide, sans eau, mais une espèce de petit bassin intérieur. Et il y a une statue qui est au mur, une espèce d'idole avec semi-moderne, on peut difficilement la définir sur le plan de la sculpture, une idole qui tient un enfant dans ses bras. Et on dirait vraiment un temple romain, c'est assez fou, très très sombre. Et il y a ces couloirs, 2 petites boîtes, et ça c'est quelque chose de très très oppressant, de très lourd et de très mauvais goût. C'est pour ça que la notion du macabre m'intéresse là, parce que c'est vraiment une espèce de pantomime de la mort, entre guillemets non naturelle, non humaine, bien que l'incinération soit vieille comme le monde, mais sa représentation visuelle devant les gens pour les vivants, c'est quelque chose de très très mesquin et très macabre, et c'est assez étouffant.
Macabre, étouffant, mauvais goût, mesquin, voilà, ce sont les qualificatifs de l'historien de l'art Jean-Jacques Levesque en 1987 dans un Nuit magnétique diffusé sur France Culture et consacré au cimetière. Alors juste avant, il y a l'éloge des cimetières italiens, la beauté des monuments mortuaires et ensuite on plonge, il dit, on descend dans cet endroit du crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris et c'est, selon cet homme, l'endroit du lait. Vous qui évoluez, vous qui travaillez dans cet endroit, est-ce que vous pouvez nous le décrire peut-être avec d'autres mots?
Alors, moi, ce que ce témoignage m'évoque, c'est immédiatement une référence un peu plus
dirais, un peu plus sobre, moins effrayante. Il y a un très joli texte, un texte sur Paris de Jean Follain, où le crématorium du Père Lachaise est évoqué en termes, beaucoup plus sobre, beaucoup plus moins effrayant, moins macabre. Mais le fait d'y travailler tous les jours ne suscite pas particulièrement l'effroi. Enfin, en tous les cas, en ce qui me concerne. Mais Myriam,
plutôt la beauté, je dirais. Parce qu'on travaille, même si le crématorium du Père Lachaise, il est aussi dans le cimetière du Père Lachaise. Et c'est vrai qu'en y allant travailler tous les matins, ben, on se dit, on travaille dans un lieu qui est magnifique. Et c'est vrai que ce qui a été dit... Aujourd'hui, le crématorium essaie d'être... Nous sommes sereins, j'ai envie de dire, pour les familles qui viennent au crématorium. Enfin, Renaud est peut-être d'accord avec moi. Les salles sont confortables. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un lieu où même les familles le disent, hein, qu'ils aiment venir autour du crématorium, ou même au crématorium, qu'il y a des familles qui se sentent à l'aise et qui aiment bien le lieu.
En tout cas, c'est un lieu très fréquenté. Voilà, très fréquenté. Ça, c'est une certitude. Il y a énormément de touristes qui visitent le cimetière et qui souhaitent visiter le crématorium. Donc, c'est tout de même un lieu qui attire beaucoup de monde.
Au-delà même des cérémonies qui ont lieu, et on va y revenir. Peut-être sur cette question de la beauté ou de l'esthétique, Arnaud Escaré, je vous voyais réagir.
Oui, je voudrais juste dire un mot, c'est que il faut voir que pendant la réflexion sur l'esthétique des cimetières et des crématoriums, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé à la fin du XVIIIe et pendant la Révolution française, et que c'était en réaction à des cimetières qui étaient en fait des charniers, des lieux horribles.
Qui, eux, étaient macabres.
Et qu'on a imaginé, en fait, les cimetières et aussi donc les premiers, ce qu'on a appelé ensuite crématorium, mais enfin qui étaient des endroits pour brûler les corps, comme des lieux de promenade, de repos. Et donc, en fait, des lieux où on pouvait à la fois laisser son esprit se reposer, être imprégné, en fait, par le respect dû aux morts, et en même temps avec un souci très important de l'esthétique. Et donc, ce sont des architectes qui ont développé ça. Et je trouve que le propos qu'on a entendu de l'historien, en fait, masque mal une hostilité vis-à-vis de la crémation qui a été extrêmement répandue, notamment en histoire, comme les historiens de la mort, qu'ont défendu, en fait, et sous-estimé la crémation. Et si on fait on peut faire une autre histoire et une autre histoire de l'architecture funéraire, dans laquelle on peut montrer que pendant la Révolution, par exemple, il y avait des projets qui étaient faits dans lesquels il y avait des lieux d'inhumation et des lieux pour brûler les corps qui étaient ensemble et pensés architecturalement comme un ensemble
et dans
esthétique.
Un même souci esthétique.
Absolument.
Alors vous dites qu'il est très fréquenté par les touristes, il est aussi fréquenté parce que c'est un lieu de cérémonie. Il y a combien de cérémonies aujourd'hui au crématorium du Père Lachaise à Paris par jour?
Par jour, depuis le 1er janvier, nous faisons 27 crémations par jour.
Donc il y a 27 familles ou entourages de défunts qui se réunissent pour brûler les corps de leurs morts.
Voilà.
Puisque l'un et l'autre, vous êtes responsables des maîtres et maîtresses de cérémonie, peut-être on peut essayer de donner une idée de ce qu'est une cérémonie autour de la crémation. Comment ça se déroule?
Alors, je crois que...
Renaud.
Le fait de travailler dans un lieu comme le crématorium du Père Lachaise nous expose à, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se faire une idée un petit peu peut-être trop héritée de l'histoire ou penser que la crémation c'est une option qui est choisie par des gens un petit peu militants sur certaines choses d'un point de vue religieux, etc. Ce qui a été sans doute le cas peut-être historiquement. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à une multiplicité de situations, de familles, d'origines, de catégories sociales différentes, d'âges différents naturellement, de personnes qui ont un rapport très très variable aux croyances, aux religions.
Et ça, vous le savez comment, en vous entretenant avec les familles?
Alors, je laisse Myriam peut-être expliciter un petit peu le processus de travail à l'interne.
C'est-à-dire que nous avons effectivement au crématorium du Père-Lachaise différents pôles. Hein. Donc il y a déjà la réservation donc, au planning du crématorium. Ensuite, pour les cérémonies, donc 27 par jour, le planning descend à mon niveau. Donc je prépare le planning des maîtres de cérémonie avec Renaud. Quand le planning est établi, effectivement, il y a des familles qui nous appellent au préalable, soit 2-3 jours avant, ou même la veille pour le lendemain. Et le maître de cérémonie qui est affecté à cette cérémonie rappelle la famille.
Il y a toujours un maître de cérémonie.
Toujours un maître de cérémonie qui est affecté à une famille. Hein. C'est vrai que les maîtres de cérémonie font les plages horaires de 8h en gros à jusqu'à 18h, mais nous sommes 7 maîtres de cérémonie, donc des femmes et des hommes. Donc nous rappelons les familles pour organiser la cérémonie, selon leur désir, selon ce qu'ils souhaitent. Alors, c'est vrai que nous, au prime abord, nous écoutons ce que la famille nous demande, hein, s'ils veulent de la musique, des prises de parole.
Est-ce qu'ils savent comment ça se passe quand ils vous appellent? Est-ce qu'ils ont une connaissance du rituel qui existe, des possibilités de cérémonie qui existent?
Alors, certaines familles, oui, d'autres, non. Et c'est pour ça que nous sommes là, en tout cas, c'est pour accompagner la famille pendant le temps de recueillement, pour organiser avec eux cette cérémonie. Donc c'est vrai que quand une famille ne sait pas, nous sommes là pour les épauler et pour les aider.
Et leur faire des propositions
des
concrètes.
Des propositions, bien sûr, au niveau de la musique, des textes. S'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelques mots, nous pouvons, avec la famille, rédiger donc, un laus concernant le défunt ou la défunte. Donc c'est vrai que nous pouvons passer vraiment 20 à 30 minutes au téléphone avec une famille pour pouvoir vraiment préparer le temps de recueillement qu'ils souhaitent.
Et ça, c'est un dialogue au cours desquels sont abordées ces questions justement de croyances, de rapport à la mort, de la manière dont ils se positionnent, ou c'est pas le moment?
C'est pas le moment. C'est-à-dire que au niveau des croyances, si c'est une cérémonie religieuse, par exemple, c'est vu en amont avec l'entreprise de pompes funèbres. Nous sommes vraiment des maîtres de cérémonie laïques. Donc c'est vraiment une cérémonie, vas-y.
Mais est-ce qu'ils les évoquent tout de même dans leur discussion? Est-ce qu'ils font part de quelque chose ou non? Vous fermez la porte à ce genre de...
Nous fermons pas la porte. Mais c'est vrai que les familles sont plus là pour nous raconter la vie du défunt, ce qu'ils souhaitent, et c'est surtout la vie du défunt et ce qu'ils souhaitent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
En fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que les maîtres de cérémonie du crématorium du Père-Lachaise peuvent être placés dans le cadre d'une cérémonie où n'intervient pas du tout d'éléments d'ordre religieux. Donc c'est vraiment un cadre qu'on pourrait qualifier de civil. Et parfois, nous sommes là, au second plan, pour accompagner des officiants religieux, puisqu'il y a des cérémonies religieuses qui se déroulent au crématorium du Père-Lachaise. Nous travaillons en étroite collaboration avec une pastorale des funérailles, des personnes qui sont là mandatées par le diocèse de Paris. Il y a des cérémonies israélites, des cérémonies hindouistes, bouddhistes. Donc nous sommes parfois vraiment, à proprement parler, dans un rôle de maître de cérémonie, si on prend historiquement, en tout cas en relation avec la tradition catholique, le cérémoniaire, c'est celui qui est à l'arrière de l'officiant et qui organise les servants d'autel. Donc parfois, on peut être amené à intervenir dans un cadre comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a un officiant religieux qui est là, qui respecte une liturgie, et nous l'accompagnons pour tout simplement gérer des questions un peu plus matérielles relatives plus à la cérémonie. Et parfois, c'est là où peut-être il y a des éléments à relever en termes de mutation, c'est-à-dire que le maître de cérémonie peut intervenir carrément comme force de proposition dans l'élaboration d'un hommage, et là, on évolue sur un autre plan.
Mais qui est un plan qui est extrêmement intime, finalement. Vous arrivez sur des territoires de discussion avec les familles qui sont extrêmement intimes.
Ça peut être très intime, effectivement.
Ça peut être très intime,
parce qu'il y a des gens qui sont plus dans une distance, qui la respectent, enfin qui la maintiennent, et d'autres qui souhaitent vraiment rentrer dans les détails face à la personne qui va les accompagner.
Voilà. Et qui va officier, et puis être avec eux pendant, mais c'est une demi-heure ou une heure.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a des grilles tarifaires, hein, qui sont des moments de temps de location de la salle de réunion. Donc c'est quoi, une demi-heure, une heure?
Il y a des salles d'une demi-heure et une salle deux salles d'une heure. Donc il y a la salle de la coupole, une heure de cérémonie, et la salle Mauméjean. Et après, nous avons deux petites salles, la salle Bigot et Formigé, qui sont une demi-heure de recueillement. Donc c'est vrai que pendant cette heure ou cette demi-heure, nous sommes là vraiment pour accompagner les familles. Hein. Et c'est de là que Renaud expliquait, il y a des familles qui nous expliquent vraiment qui était le défunt et nous considèrent comme les membres, entre guillemets, pendant cette heure ou cette demi-heure.
En tout cas pendant cette heure et cette demi-heure. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour le corps? Qu'est-ce qui se passe pour le cadavre? Et où est la famille à ce moment-là? quand le corps et le cercueil sont brûlés.
Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rebondir sur un élément peut-être d'ordre historique. Pendant des décennies, oui. Je crois, au crématorium du Père-Lachaise, ce qui se passait, c'est que l'on mettait les gens dans une salle le temps de la crémation.
Voilà. C'est-à-dire qu'on les changeait de salle.
Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas proprement parlé, je crois, de cérémonie.
Alors, c'est vrai qu'il y a des familles qui nous expliquent un petit peu
comment l'expérience
et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les familles nous disent, on attendait dans une salle, c'était effectivement pas très commun. Aujourd'hui, au crématorium du Père Lachaise, après une cérémonie, il y a des familles effectivement qui peuvent assister au départ du cercueil pour l'appareil de crémation, effectivement. Il y a des familles qui ne souhaitent pas et qui regagnent l'extérieur.
Ça veut dire quoi, assister au départ du cercueil pour l'appareil de crémation concrètement ?
Concrètement, c'est juste voir le cercueil rentrer dans l'appareil de crémation. Donc c'est vrai que c'est plus aujourd'hui les cérémonies hindouistes, les bouddhistes qui souhaitent vraiment assister à ce temps.
Et rester pendant aussi le temps ?
Non, vraiment
l'entrée du cercueil. Voilà. Aujourd'hui, au crématorium du Père Lachaise, nous n'avons que les salles de cérémonie. Nous avons effectivement une salle, la salle Landowski, qui peut servir de service traiteur, où les familles peuvent effectivement faire un temps de convivialité pendant une heure après la cérémonie. Mais c'est vrai que nous n'avons pas de salle d'attente après une cérémonie.
Voilà, donc la cérémonie a lieu avant la crémation.
Et après, les familles regardent l'extérieur.
Après la séparation. Voilà, la crémation se déroule sans la présence de la famille.
C'est-à-dire que finalement, ce moment du feu est un moment où c'est simplement l'opérateur du four, ou les opérateurs du four qui y assistent.
Il y a effectivement, au-delà des maîtres de cérémonie, des opérateurs techniques, des agents d'accueil, des agents de planning. Il n'y a pas que des maîtres de cérémonie, donc effectivement. Et il y a des personnes qui sont là pour s'occuper de ces questions-là, effectivement.
Ça a toujours été le cas, Arnaud Escarré, ce moment plus technique de... où le cercueil et les corps sont brûlés, c'est un moment finalement qui est presque retiré du social, en France, hein, toujours.
À ma connaissance, en tout cas, c'est pas un moment qui est montré, je pense aussi pour des questions de sécurité.
De technique.
Une des questions qui s'est posée historiquement, c'était de savoir comment améliorer le système pour brûler les corps. Parce que pendant, si on reprend très rapidement en deux mots une trame historique, pendant la Révolution, c'était des bûchers, donc il y avait la question des forêts, on disait il vaut mieux utiliser le bois pour faire la guerre que pour brûler des corps. Et donc le grand problème à la fin du 19e, c'est de mettre au point des techniques qui permettent de brûler les corps et de raccourcir en fait le temps pour les brûler. Donc voilà. Après, il y a d'autres problèmes qui sont posés, qui sont des problèmes plus récents liés à l'écologie sur la question de la combustion des corps.
Et ça, les familles vous posent des questions sur ces problématiques techniques. Est-ce qu'elles demandent à savoir comment ça se passe, combien de temps ça brûle un corps, combien de temps ça brûle un cercueil? Est-ce que vous devez aussi répondre à ces questions-là, Myriam Gervais?
Bien sûr, il y a des familles qui s'interrogent et nous sommes là pour, en tout cas, répondre à leurs interrogations, tout à fait. Donc nous leur expliquons un petit peu, c'est vrai qu'il y a des familles qui veulent un petit peu plus savoir, quand je dis un petit peu plus savoir, c'est vraiment rentrer dans les détails. Et oui, nous sommes là pour répondre à leurs questions, donc nous leur expliquons qu'effectivement, juste après, si c'est une crémation différée, ce que nous faisons au crématorium, nous expliquons qu'effectivement, le cercueil part, effectivement, les opérateurs, qu'on appelle conducteurs d'appareils de crémation, partent avec le cercueil, font l'introduction et on explique effectivement le processus de crémation.
Et alors ? Vous leur expliquez quoi ?
Alors on leur explique qu'une crémation dure au minimum une heure et demie. Qu'après effectivement la crémation, l'opérateur d'appareil de crémation récupère les calcins.
Expliquer ce que c'est.
Les caleçons.
C'est un terme un peu technique.
Effectivement, c'est un terme un peu technique. Les os, tout simplement. Mais c'est vrai que nous avons, juste avant, ils nous demandent, mais comment vous savez que c'est notre défunt? Parce que nous avons un processus, nous avons un document de traçabilité des cendres au crématorium du Père Lachaise. Avec ce document, l'appui du document, même si on l'explique aux familles, nous sommes certifiés ISO 9001. On a eu un auditeur qui, en tout cas, a validé notre traçabilité des cendres. Donc, on explique bien aux familles que, avant la crémation, que le cercueil est présent, que nous avons la plaque d'identité qu'il y a sur le cercueil, qu'ensuite, la plaque d'identité du cercueil est mise juste à part de l'appareil de crémation. Nous récupérons, donc, quand la crémation est terminée, l'opérateur récupère effectivement les ossements, qui sont ensuite emmenés dans le pulvérisateur d'ossements, et ensuite récupéré par l'opérateur, et ensuite mis dans l'urne, affecté aux défunts, donc avec bien sûr identification tout d'abord à l'arrivée du cercueil au crématorium, donc avec nom, prénom du défunt, une plaque d'identité qui est obligatoire, qui est posée sur l'urne, et l'opérateur met effectivement les sangs dans cette urne, et ensuite qui est remis à la famille quand il y a rendez-vous.
Donc ça, vous dites ça 27 fois par jour. Vous
expliquez. Pas 27 fois par jour. Non, c'est pas toutes les familles qui nous demandent.
C'est assez récurrent, mais ça n'est pas systématique quand même. C'est pas.
Nous sommes vraiment plus là. Enfin, quand une famille nous pose la question, nous répondons à la question.
C'est facile pour vous quotidiennement d'expliquer ça à des familles?
Quand nous devons l'expliquer, c'est pas très facile parce qu'il y a des familles qui sont, comme disait Renaud tout à l'heure là, il disait qu'il y a des familles qui sont un peu plus dans le retrait, il y en a d'autres qui sont un peu plus proches de nous. Donc expliquer à une famille un peu plus proche ou même dans le retrait, c'est pas facile parce que c'est une personne quand même qu'ils ont aimé, côtoyé. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas facile d'expliquer les choses. Je sais pas pour toi, Renaud.
Ça nous porte sur un plan où nous, tout ce que nous faisons face aux familles, c'est toujours dans une sorte d'entre-deux. Enfin, de sérénité, bien sûr, mais d'entre-deux. C'est-à-dire, une cérémonie, les gens viennent, c'est faire exister... Enfin, c'est un moment de séparation. Ils sont là pour vivre un moment de séparation qu'on doit marquer dans le temps. Après, il y a des psychologues, etc., enfin... explique très bien ce genre de problématiques. Enfin, ils sont là pour vivre un moment de séparation. En même temps, c'est un entre-deux parce que, effectivement, il y a, pendant la cérémonie, le corps est là. En même temps, bien sûr, il est...
mort.
Mort. Et... alors... il est à la fois là et sans être là. C'est-à-dire que les familles sont... là, ce qu'on vit, c'est quelque part le dilemme de personnes qui peuvent plus faire avec, mais peuvent pas vraiment faire sans. C'est-à-dire c'est un temps un peu... c'est troublant. Enfin, on est sur des registres qui sont parfois un peu difficiles. Et on a quand même... on est là, malgré tout, pour accorder... au corps, un statut qui est ambigu.
Et alors, qui vous semble plus ambigu, j'ai l'impression, en tout cas même aussi dans la manière dont vous cherchez vos mots, dans la manière dont vous cherchez vos mots, pardon, que le statut du corps quand il est prêt à être enterré dans un cimetière. C'est plus ambigu pour vous, ce moment-là. Le moment de la crémation, c'est plus ambigu que l'inhumation, par exemple. Le statut du corps, il est plus difficile à dire, il est plus difficile
alors,
à
figurer. Alors, en tout cas, lorsque les familles nous amènent sur des questions techniques, parce que du coup, nous traitons le corps comme un corps-objet. On doit amener des réponses qui sont de l'ordre de l'objectivité. Un corps, combien de temps met pour brûler, c'est quand même... et en même temps, on est dans un registre, on peut pas être sur ce registre-là, si vous voulez, dans une cérémonie. C'est toujours un peu délicat. On est toujours dans un entre-deux. C'est vrai qu'on évite quand même de rentrer trop longtemps sur ce registre-là. On explique, en restant quand même un petit peu, général. Pas la peine d'en rajouter. Mais si les familles nous le demandent, on est là pour
répondre. Donc c'est vrai que c'est pas facile après une heure, une demi-heure de cérémonie, de séparation. C'est vrai que c'est pas facile d'expliquer tout simplement une famille qui a une crémation, tout en sachant qu'ils viennent de sortir, qu'ils viennent de faire une cérémonie où les apaiser, on était là en tout cas pour les accompagner à commencer leur chemin de deuil, tout simplement. Et c'est vrai que parler tout de suite après d'un côté technique, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas véritablement ce que la personne en face de nous, même si elle nous pose la question.
Là où elle en est.
Exactement. Mmh. Exactement. Nous sommes là vraiment pour l'accompagner au départ, commencer son chemin de deuil. Donc c'est vrai que quand on nous pose cette question juste après, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle en est. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de parler de ça juste après.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
des reliques, et en raison donc de changements de mentalité, on va passer dans le courant du XVIIIe siècle, et sans doute en Angleterre, à l'acte de conserver des cheveux non plus seulement comme accroche-cœur, comme on le faisait jadis, puisqu'on conservait souvent des cheveux de sa belle bien vivante comme souvenir d'elle, mais également on va faire des petits objets commémoratifs en cheveux des êtres qu'on a connus. Alors ces petits objets commémoratifs qui apparaissent au XVIIIe siècle apparaissent souvent, je crois, dans un premier temps, sous la forme d'objets qui rappellent directement la mort. Petits cercueils contenant des cheveux, ou petites tombes, petits catafalques. Nous avons, nous, deux exemples d'espèces de petites maisons en forme de tombeau, avec à l'intérieur des cheveux, qui à mon avis sont effectivement le type même du monument funéraire portatif qu'on a chez soi, rappelant la présence du défunt à travers ses cheveux.
On entend ici la voix de Zev Gourari. C'est une archive de 1988 à propos des objets mortuaires. Est-ce qu'on peut dire qu'une urne qui contient des cendres, c'est un objet mortuaire, Arnaud Escarré?
On peut dire que c'est un objet mortuaire, mais ce qui est intéressant dans cette archive qui parle des cheveux, c'est qu'il pose la question de savoir comment on se souvient des morts, ou quel est le support en fait qui permet se souvenir ou de penser aux morts. Et je pense que c'est un problème central en fait qui peut être posé pour expliquer la diffusion de la spectaculaire de la crémation dont on a parlé, parce qu'au fond c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, cette généralisation très importante de la crémation.
Même avec des questions économiques, des questions d'espace.
Ce ne sont pas des questions économiques, parce que si c'était des questions économiques, en fait, ça veut dire que dès le moment où c'est autorisé, la crémation aurait été adoptée. Donc, c'est pas un problème économique. Ça a d'autres problèmes. Et je pense que la question de la manière dont on se souvient et du support qui permet de se souvenir est centrale. C'est-à-dire que les cheveux dans des médaillons ou associés à des photos, ce sont des pratiques qui arrivent au 18e, 19e siècle pour les photos, les petites photos, mais qui restent marginales, qui restent limitées à la bourgeoisie. Et je pense qu'en fait, la diffusion très importante de la photographie est une des explications qu'il faut lier à une autre, c'est-à-dire au fait que les familles en fait sont ont un rapport très différent au territoire, au sol, parce que c'est des familles à partir des années 70 qui sont décomposées, recomposées, et donc la question d'aller au cimetière en fait, qui était quelque chose qui était normal quand on vivait au même endroit que ses parents, se pose de manière totalement différente. Et donc, si vous voulez, si les enfants ne vivent pas au même endroit que les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire pour se souvenir d'un mort? Et bien, ils vont avoir un objet, et ça va être par exemple une photographie ou quelque chose comme ça, plutôt que d'aller au cimetière qui nécessitera de prendre le train, l'avion, etc. Donc, je trouve cette archive vraiment très intéressante parce qu'elle pose cette question support de mémoire.
Et de la dématérialisation de ce rapport au souvenir. Vous diriez que d'une certaine manière, le souvenir du mort, même s'il n'était pas limité à la tombe et au corps enterré au moment du cimetière, hein, mais ça veut dire qu'il va être de plus en plus théorique et dématériel?
Je pense pas qu'il soit théorique et dématériel, parce qu'une photo, c'est matériel. Donc, simplement, en fait, il est dispersé en plusieurs objets, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il faut voir que si vous vous placez à la fin du 19e siècle, c'est quand même la France une société essentiellement paysanne. Il y a une bourgeoisie qui possède qui ont des biens, mais si vous voulez, vous héritez de très peu de choses. Donc vous allez voir un mort quand il est enterré à l'endroit où il est enterré, mais vous n'avez pas. Donc le fait d'avoir des objets en fait qui vont vous permettre de souvenir, et ça peut être des vidéos. Alors vous pouvez dire la vidéo c'est immatériel, mais en réalité vous regardez une vidéo sur un ordinateur, donc vous avez quand même besoin d'un support. Donc c'est comme ça dont on se souvient des morts. Et voilà, donc ça, je pense, c'est une question importante en fait qui est en tout cas liée à la question du rapport aux morts et à la question de la diffusion de la crémation, notamment dans le cas où les cendres en fait sont dispersées, hein, puisque elles peuvent être dispersées dans un endroit dans la nature. Hein,
alors que dit la loi aujourd'hui à ce propos-là, puisque c'est la dispersion des cendres et ce qu'on fait des cendres est un des sujets de discussion, vous l'écrivez, qui mobilise à la fois les débats et à la fois les revendications.
C'est une question sur laquelle il y a eu des changements importants dans le dernier quart du XXe siècle, parce qu'en fait, les partisans en fait de la crémation, les militants, on va dire, à une époque où elle était peu pratiquée, dans les années 70, avaient l'idée, c'était « mon corps m'appartient ». Alors c'était vrai pour la sexualité, mais c'était vrai aussi pour la mort. Et donc il y avait l'idée qu'on pouvait disposer librement de son corps aussi après la mort. Et ça voulait dire en fait que quand les urnes étaient remises, on ne savait pas vraiment en fait ce qu'il advenait de ces urnes. Les cendres pouvaient être dispersées, ou une partie pouvait être gardée, elle pouvait être transformée, on pouvait en donner en plusieurs endroits. Et ça a mis en jeu une question par rapport à la question de l'espace, qui était la question de l'espace privé et de l'espace public. C'est-à-dire que vous aviez tout d'un coup des tas de morts sous forme d'urnes dans des espaces privés, alors que les morts, en fait, jusqu'alors, étaient dans des espaces dits publics. Et donc, il y a eu un certain nombre de débats au début des années 2000, notamment, qui ont conduit à une réforme importante et qui, pour le dire simplement, en fait, a visé à donner aux cendres le même statut que le cadavre, à faire comme si en fait c'était équivalent, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, d'un point de vue juridique, en tout cas en théorie, diviser les cendres parce que ça équivaut à diviser un cadavre, et deuxièmement à sortir les cendres, en tout cas pour ceux à qui ça arrive d'être brûlé, de sortir les cendres de l'espace privé et de les mettre entièrement dans l'espace public, alors ou bien au cimetière, donc là, ça peut être dispersé dans un jardin du souvenir, ou bien l'urne peut être mise dans un columbarium, ou bien dans la nature, et auquel cas, en fait, la loi demande à ce que le lieu de naissance, que le lieu de dispersion soit indiqué dans la commune de naissance de la personne, ce qui crée
Pourquoi ?
Un lien. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs types d'arguments qui ont été utilisés. Il y a un argument d'ordre psychologique qui a été beaucoup mobilisé, qui était au fond, on ne peut pas faire ce qu'on appelle un travail de deuil si on ne peut pas savoir où est immobilisée en quelque sorte la personne morte. En réalité, il y a énormément de manières de faire son deuil, et c'est valable tant pour l'inhumation que pour la crémation. Donc, si vous voulez, cet argument, il vaut pour certaines personnes, mais il vaut pas pour toutes. Un deuxième type d'argument était de dire, il faut que les gens qui veulent pouvoir se recueillir sachent où ils peuvent se recueillir s'ils décident de se recueillir, et c'est parce que il y avait l'idée qu'en cas de conflit, quelqu'un qui aurait gardé l'urne pour lui empêcherait quelqu'un d'autre, je sais pas, la maîtresse de l'époux qui était décédé ne pourrait pas se recueillir devant l'urne parce que la femme, la veuve en fait l'en empêcherait. Donc pour ce cas de figure en fait on a imaginé qu'il fallait indiquer l'endroit de dispersion dans la nature. Mais si vous voulez, je pense qu'au fond ça traduit malgré tout un rapport politique en fait entre le territoire et les morts qui est plus général et qu'on peut retrouver dans d'autres types de problèmes qui sont aussi des problèmes par exemple comme la restitution des restes humains dans les musées et qui en fait lie ensemble les morts et le territoire en considérant qu'il y a une communauté en fait des morts et des vivants qui est nationale en quelque sorte.
C'est ça, à des visées politiques, parce que on peut évidemment, tout à l'heure je disais, les maîtres et maîtresses de cérémonie au crématorium arrivent sur des terrains intimes, là on peut considérer que l'État et la loi arrivent aussi sur des terrains extrêmement intimes, de la manière dont on décide ou non de faire son deuil, du rapport au territoire, du rapport aux souvenirs, du rapport aux cendres d'un défunt. Pourquoi est-ce que l'État se mêle de savoir ce qui arrive des cendres des morts ?
Mais parce que, si vous voulez, c'est un rapport plus profond entre l'État et le corps, tout simplement, et la maîtrise des corps, qu'on peut inscrire historiquement. Il y a l'idée de mourir pour la patrie. C'est ce rapport-là. Et finalement, en réalité, ce qui s'est joué dans la loi de 2008 qui a fait cette réforme, ça a été bien sûr un enjeu pratique pour les gens, mais ça a été aussi un enjeu politique et un enjeu politique de lier en fait ou de refaire surgir cette question de l'identité nationale en le liant au territoire via les corps et donc via aussi les morts en fait. Donc je pense qu'il y a plusieurs facettes en fait dans tous ces aspects. Il y a des choses très concrètes auxquelles doivent répondre les maîtres de cérémonie, et puis il y a cette réforme très générale, et d'ailleurs les communes qui ont dû tenir des registres pour inscrire les noms, les endroits en fait où les cendres des personnes étaient dispersées, au départ n'étaient pas équipées, elles y ont fait vu qu'à ce qui, parce que je ne pense pas qu'elles étaient forcément très demandeuses de ce genre de réforme.
Aujourd'hui on peut disperser les cendres d'un défunt autre part qu'en France, si son lieu de naissance du défunt est en France. Autrement dit, est-ce qu'un mort français peut disparser ses cendres en Australie ?
En tout cas, on peut conduire les cendres à l'étranger. Ça, c'est sûr. Maintenant, les réglementations nationales hors le territoire français, je pense que ça, c'est... Enfin, moi, je ne suis pas du tout...
C'est déjà arrivé, c'est des familles dispersées à l'étranger, et puis privées de lieu de naissance, même si la personne était habitée en France, bien sûr, privées de lieu de naissance. Hein. Enfin, cette question m'a déjà été demandée, comme a été déjà demandé à certains autres maîtres de cérémonie. Peut-être pas à toi, mon petit Renaud, mais...
En tout cas, tout ceci, c'est l'autre aspect de notre travail, puisqu'effectivement il y a l'aspect proprement cérémonial et il y a quand même
la remise des cendres.
Ah oui,
tout à fait,
et ça c'est quand même aussi considérable.
Alors ça arrive à quel moment, la remise des cendres?
Ça arrive dans un...
Alors, nous avons une salle au crématorium du Père Lachaise, bien spécifique pour la remise des cendres. C'est vrai qu'une famille qui fait une cérémonie le lundi, par exemple, peut récupérer sur rendez-vous l'urne du défunt, où on peut aussi pousser la dispersion des cendres, sur rendez-vous aussi. Puis après, il y a aussi l'inhumation au casque-columbarium, aussi au Père Lachaise. Donc c'est vrai qu'une famille peut récupérer l'urne le lendemain.
C'est toujours différé de toute façon.
Pas toujours différent, parce qu'il y a des crémations effectivement directes, comme je vous ai expliqué, où les familles peuvent assister ou pas du tout, mais on peut remettre les cendres le jour même aussi. Donc c'est vrai que si la cérémonie a lieu le matin, la famille peut avoir pris rendez-vous en amont et récupérer l'urne l'après-midi. Donc c'est vrai qu'à ce moment, ils vont à l'extérieur, ils vont déjeuner, après ils reviennent. Ensuite, il y a une petite formalité à remplir à l'accueil, un maître de cérémonie va les chercher. Donc il y a un temps bien spécifique aussi, il y a un temps de recueillement où nous sommes dans la famille, dans la salle, dans la salle Brognard, où lui, on est dans la salle avec la plaque d'identité du cercueil. Effectivement, nous le remettons, nous faisons un petit cérémonial tout d'abord. Hein. On explique à la famille ce qui peut être fait ou pas, puisque nous remettons aussi un document de la législation pour savoir ce qu'ils peuvent faire en partant avec l'urne, quelle est... Oui, tu allais dire quelque chose.
Non, j'allais dire, effectivement, là, nous sommes effectivement des agents, d'une certaine manière, en tout cas, des opérateurs de la loi, effectivement.
Voilà.
Puisqu'effectivement, on les met au courant de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire.
Voilà.
Au regard de la loi,
Mais c'est aussi un temps de recueillement. Il y a un petit cérémonial qui est fait avec la famille où ils peuvent, avant de récupérer le lion, prendre un temps à eux et juste entourer le lion et effectivement, et c'est à ce moment qu'ils nous posent des questions.
Et est-ce que vous avez l'impression que justement ce moment où ils entourent l'urne est un moment qui est au-delà du chagrin, et au-delà de la perte, est-ce qu'ils savent faire? Puisqu'on a dit à quel point est-ce que ce changement de société de l'inhumation à la crémation était un changement extrêmement rapide. Donc aussi il y a des transmissions de rituels, des inventions de rituels qui n'ont peut-être pas encore eu lieu. Est-ce que les familles savent faire avec une urne qui se retrouve avec dans les mains, quoi?
Alors, vas-y. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est dans des situations où parfois, effectivement, les choses se mêlent, certaines traditions, un désir de personnaliser aussi ces obsèques. Et là, si la famille le demande, on va dans ce sens. Il y a aussi des familles qui traversent cet événement de la mort de manière aussi un peu plus, je dirais, dans le retrait, dans le silence. Et ça, on respecte. Il faut respecter parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Enfin, je veux dire, si par le passé, les traditions religieuses, etc., encadraient de manière plus uniforme à l'échelle d'une société, ce passage-là, ce temps-là, cette séparation-là, aujourd'hui, les quatre figures sont multiples. Et effectivement, il y a à la fois, je rebondis peut-être sur ce qui avait été dit tout à l'heure, on sent qu'il y a, surtout pour les gens qui... Enfin, il y a des personnes, enfin, on nous fait le récit de personnes qui parfois ont choisi clairement la crémation de manière consciente. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu pour le choix de la crémation, qui sont des paramètres un peu plus matériels. Effectivement, la désertion, si je puis dire, de la fréquentation des cimetières, ce genre de choses. Mais il y a quand même assez régulièrement des récits clairs où voilà, le défunt choisit lui-même, voilà, l'a indiqué, a énoncé cette volonté. Mmh. Et on sent sans doute qu'il y a quelque chose... alors, pourquoi, à partir des années 80, il y a une telle montée comme ça? Effectivement, il y a sans doute quelque chose... La crémation rencontre... Enfin, séduit sans doute quelque chose de l'ordre de l'individu contemporain, dans cette volonté de maîtrise, sans doute, du devenir de son corps au-delà de la mort. qui s'accompagne souvent, effectivement, sans doute, d'arguments hygiéniques. Enfin, c'est vrai que souvent, parfois, on peut entendre.
Rapidement, Arnaud Descarré, est-ce que, sur cette question-là de la maîtrise du corps, est-ce que ça pourrait être l'une des explications du passage d'une société de l'inhumation à la société de la crémation?
Absolument, c'est un des facteurs qui joue, parce que c'est un changement du rapport au corps qu'on va trouver aussi bien dans la sexualité. Il est très significatif que ça soit Simone Veil, en fait,
bien
qui
sûr.
Ait permis ce changement. Alors après, on est revenu dessus, mais voilà, des années 70, et qu'on va trouver aussi d'ailleurs dans l'art contemporain, c'est-à-dire que dans l'art contemporain, il va y avoir aussi des changements dans le rapport au corps et aux produits du reste humain.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richard.
Et chaque jour, à cette heure-ci, on souffle sur les braises. On demande à quelqu'un de partager avec nous des choses importantes pour lui, des rencontres, des moments, des tournants, des œuvres. Benoît Bonnefritz nous parle aujourd'hui des Polaroïdes d'Andrei Tarkovski.
Bon, voilà, Andrei Tarkovski, bon, mais là, c'est pareil, je sais pas comment trop en parler, je suis pas du tout spécialiste, mais moi, ce que je ressens, c'est beaucoup d'émotions, souvent. Très, très ému avec ce cinéma. Le rythme du cinéma, enfin, le rythme des films, la lumière, les objets, la mise en scène, évidemment, les acteurs. Les histoires aussi, Stalker, complètement hallucinant, cette histoire de c'est Tchernobyl, en fait, cette zone de Tchernobyl là, qui où la nature a repris ses droits, luxuriant, et en même temps c'est l'enfer, c'est le paradis, c'est quoi? Bon, il questionne, il est ultra puissant. Bon, et là les Polaroïdes, c'est des photos des Polaroïdes qu'il prend de sa femme, de son fils et de son chien. Et de sa maison, l'environnement, il sait qu'il part. Il sait qu'il s'exile, en fait. Et nostalgie, quoi, la russe, ou je sais pas quoi, j'imagine qu'il y a une... Enfin, en tout cas, que lui, il y met, quoi. Mais je trouve qu'elle est... Moi, je la ressens, je ressens quelque chose, en tout cas. Je suis très ému en voyant ces images, que je trouve absolument très belles. Je sais pas pourquoi ça me touche, mais ça me touche énormément. Ces images sont absolument sublimes, quoi. Je crois que c'est ça aussi qui m'a énormément parlé dans le cinéma de Tarkovski. Quoi, je crois qu'on peut parler de beauté. Et là, dans ces peaux-là, c'est je les trouve magnifiques, quoi. Ce sont des instantanés. Quand on imagine en plus que c'est ce qu'il a amené avec lui quand il s'est exilé. Et que c'est les images de sa femme, de son fils, de son chien, qu'il a énormément souffert de cet exil. Il retrouve sa femme, mais son fils, il le retrouve que trop tardivement, en fait. Il sait qu'il est condamné, son fils revient. Les Russes lui accordent, on est vraiment dans la, enfin, c'est la tragédie, quoi. Alors, forcément, j'imagine Tarkovski regardant cette image de son fils, parce qu'en fait, ils se sont pas vus pendant des années, quoi. Je trouve que c'est voilà, c'est Ces photos sont belles. Alors, est-ce que pour qu'une image soit belle, il faut qu'elle soit portée? Est-ce qu'il faut forcément connaître son histoire? J'en sais rien. Mais moi, cette image me plaît, même si je connais pas l'histoire, quoi. Pour moi, c'est de la poésie en image. Alors, la poésie, je l'explique pas, quoi. Je sais pas ce que c'est. Mais je sais qu'on en a besoin et je sais que j'aime ça et je crois qu'il en faut de plus en plus, quoi. S'il y en avait un peu plus, je crois que ça irait un peu mieux, peut-être.
Un peu de soleil choisi par Somanina, Sunny Day in Glasgow, c'est le nom du groupe qui chante Ashes Grammar. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Arnaud Escaret, on rappelle le titre de votre livre, ce sont Les Cendres et l'État. Les Cendres et l'État. Et c'est chez Fayard. Merci beaucoup à Myriam Gervais et Renaud Pétars d'avoir été avec nous depuis les studios. Vous allez retourner au crématorium ?
Oui.
Bonne suite. Yes. Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. On peut les réécouter sur franceculture.fr. On peut aussi se lire et s'écrire. Pareil sur Twitter et Facebook. Et vous pouvez vous abonner au podcast des nouvelles vagues pour que ça arrive chez vous. Merci à Romain Debec de Lièvre, Alice Ramon et Inès Duperron qui imaginent cette émission avec moi. À Somanina qui la réalise. Aux manettes aujourd'hui, Élise Le et au droit d'auteur, Charles Barjou.